King Nomad.
Bonjour, je suis Camille Deslauriers. Bienvenue à l'émission Sous l'influence des livres, le volet Rimouski de Parking Nomade, enregistré à l'Université du Québec à Rimouski. Ce mois-ci à l'émission, nous avons le plisir de recevoir l'écrivaine Christiane Lahaie, qui est aussi professeure de création littéraire, de littérature québécoise et de cinéma à l'Université de Sherbrooke. En collaboration avec Georges Desmeules, elle a publié des essais, dont les classiques québécois en 1997, ainsi que le dictionnaire des personnages du roman québécois en 2003. En solo, elle a fait paraître des recueils de nouvelles, alors Insulaire en 1996 et Hôtel des brumes en 2002, un roman La cour intérieure en 1999 et le récit Chant pour une lune qui dort en 2004. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de son œuvre et de sa démarche d'écriture dans les recueils de nouvelles et dans le récit qu'elle a publié. Dans un deuxième temps, Christiane va nous lire une nouvelle d'Hôtel des brumes. Enfin, dans un troisième temps, nous allons reparler avec elle et suivant notre tradition, et aussi pour rester fidèle à ce qu'indique le titre de notre émission, nous allons aborder ses lectures phares, son rapport à la lecture et l'influence de certains livres ou certains auteurs marquants dans sa démarche d'écrivaine. Alors, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui à l'émission Madame Christiane Lahaie. Bonjour Christiane et bienvenue à l'émission.
Bonjour.
Christiane, quand on écrit des nouvelles, on crée des mondes, des mondes qu'on invente ou des mondes qu'on emprunte au réel. Et ça demande de représenter même minimalement un espace, donc des lieux où vont vivre des personnages. Vous le savez d'ailleurs, vos recherches en tant que professeur d'université portent justement sur l'espace et le rapport à l'espace des écrivains. Mais pour bien situer nos auditeurs, on peut rappeler qu'il y aurait au moins deux types d'écrivains. Les écrivains chez qui le rapport au personnage est vraiment déterminant dans la démarche d'écriture, au fond c'est à la base de tout, c'est le personnage qui inspire tout le reste. Et d'autres écrivains chez qui ce sont les villes, les pays ou les mondes et leur atmosphère qui vont s'avérer la source d'inspiration première. Alors est-ce que vous diriez qu'en général vous êtes d'abord plus inspiré par les lieux ou porté par un personnage et comment est-ce que ça se répercute dans votre processus d'écriture?
Je pense que dans mon cas, c'est assez clair que ce qui constitue le principal déclencheur, c'est la fréquentation d'un lieu ou d'une série de lieux. Les personnages, c'est comme si les personnages finissaient par suinter des murs.
Oh,
je ne sais pas comment l'expliquer autrement. C'est davantage l'atmosphère ou ce qu'il y a d'impalpable ou d'intangible qu'un lieu va dégager. Je me laisse imprégner de ça. Et c'est comme si le personnage prenait vie à même cet espace-là, de lui-même. C'est vraiment pas... C'est très, très rare que je vais m'inspirer, par exemple, de quelqu'un que j'ai déjà rencontré ou d'une personne que j'aurais croisée dans la rue. Normalement, c'est vraiment un lieu et c'est souvent des lieux particulier. C'est pas des lieux... J'ai des influences gothiques, je pense.
Oui.
Et il faut que ce soit des lieux un peu... Je dirais pas sordides, mais un peu étranges, un peu lugubres. Ou en tout cas, quelque chose de particulier. Qu'on sente une présence, mais il n'y a pas de présence.
D'accord.
Donc, ce lieu vide, en quelque sorte, mais qui a déjà été habité, qui a déjà été occupé, moi, je vais le réinvestir, je vais me l'approprier.
Ah, c'est magnifique. Puis est-ce que vous avez des exemples concrets, par exemple, une nouvelle précise dans Insulaire ou Hôtel des brumes, le type de lieu?
Un exemple que je pourrais donner, c'est dans Insulaire, mon premier recueil de nouvelles. Y a des lieux qui sont tout à fait impersonnels, comme les métros, un wagon de métro.
Oui.
Et mon expérience du métro de Glasgow était vraiment pénible parce que j'étais fatiguée, on était en voyage, j'étais très fatiguée. J'étais un peu fiévreuse. Et le wagon, le métro, c'est vraiment... c'est comme un cylindre. C'est comme si on circulait dans un cylindre. Okay. Et avec des murs rouges, je le trouvais étouffant, je le trouvais horrible. Je détestais ce métro-là. Et en plus, il y a une seule ligne qui tourne en rond. Alors, déjà, métaphoriquement, oui. le lieu était particulier. Oui, et mon expérience de ce lieu-là était vraiment claustrophobante, étouffante. Mm. Alors, je suis partie de ma façon d'occuper ce lieu-là, et on n'a pas été dans ce wagon-là très longtemps, Dieu merci, et ça m'a donné l'idée d'enfermer un personnage là-dedans et de faire en sorte que mon personnage ne descende jamais de ce wagon. Alors, c'est ça. Des fois, ça se déclenche tout seul, là. C'est plus une espèce de... une expérience particulière dans un lieu qui peut être particulier, mais qui, dans ce cas-là... Mais c'est un métro particulier,
oui,
j'avoue.
Ben, j'imagine.
Oui, oui.
Merci. Si on continue à s'interroger un peu sur la notion de personnage, quelle serait la différence dans votre processus créateur, puis peut-être dans le processus créateur en général et dans les limites qu'on peut s'imposer ou les libertés qu'on peut se donner, entre un projet qui relève du récit, donc qui s'inspire en principe au moins en partie de ce qu'on a vécu, et c'est le cas, je crois, comme dans « Chant pour l'une qui dort », et une nouvelle littéraire, comme dans « Underground Glasgow », dont on vient de parler, par exemple. Quelle serait la différence entre les deux processus? Est-ce que c'est la même chose?
Non, c'est pas la même chose. Je dirais que, et là, je vais encore aller du côté de la métaphore, dans le cas d'une nouvelle, c'est comme une espèce de concentré. C'est comme si je plongeais dans un bain d'acide. C'est vraiment... Je plonge dans quelque chose qui va être rapide, douloureux. Ça va se faire très, très vite. Ouais. Alors que pour un récit, c'est davantage une suite de lieux et de situations que je vais essayer de recréer. Encore là, il y a vraiment un lien entre... Chaque fois que j'écris, il y a un lien très fort entre un lieu et la mémoire que j'en ai. Oui. Et c'est très étrange, la mémoire. On dit souvent qu'on n'oublie rien. Hein? On a cette croyance-là. Alors qu'en réalité, les cognitivistes ont constaté que ce dont on se souvient, c'est du dernier appel, c'est-à-dire du dernier souvenir qu'on a eu d'un endroit ou d'une personne. De sorte qu'avec le temps, le lieu n'est plus le lieu. C'est devenu autre chose, on l'a transformé.
Oui.
Donc, c'est cette mémoire du lieu-là que je rappelle, sauf que dans le cas de la nouvelle, je le rappelle, c'est comme un instantané, un éclair, c'est comme si je prenais une photo, alors que dans le cas du récit, c'est comme si je tournais un film.
D'accord.
Je vais monter une série de lieux.
Merci. J'aimerais aussi qu'on parle un peu de la mention générique très particulière qui figure sur votre page couverture de Hôtel des Brumes, hein, parce que c'est écrit « Roman par nouvelle ».
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce genre qu'on voit rarement?
En fait, c'est un peu controversé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont dit « c'est un recueil, assume-toi ». Il y a des gens qui m'ont dit « oui, c'est plus près du roman qu'insulaire ». C'est que pour moi, étant donné qu'Hôtel des Brumes se situe dans... Tous les textes se situent dans un même hôtel.
Oui, on peut préciser.
Dans un même lieu, un hôtel un peu particulier, hein, qui est sur une île flottante.
Oui.
Moi, je reste convaincue que ça existe, les îles flottantes. mais c'est étant donné cette unité de lieu, cette grande unité de lieu, pour moi, ça justifiait le générique roman par nouvelle.
Oui.
D'autant plus que j'ai quand même fait en sorte que certains personnages reviennent d'un texte à l'autre, dont un fantôme qui hante le fameux hôtel et qui se pointe de temps à autre. En tout cas, quand on est à l'affût, on le voit passer. Il est là quand même assez régulièrement. Alors, c'est là-dessus, dans le fond, pour moi, il fallait faire une différence entre recueil et roman par nouvelle. Les anglophones n'ont pas ce problème-là. Eux parlent de short story cycles.
Oui.
Donc, c'est un short story cycle, si on veut.
D'accord.
Mais on n'a pas d'équivalent français. On ne va pas dire cycle de nouvelles. Donc, pour moi, roman par nouvelle, c'était...
ça convenait.
Un entre-deux, oui.
Parfait. Oui. Merci beaucoup, Christiane Lay, d'avoir répondu à mes questions sur vos livres et votre démarche d'écriture.
Le soleil s'efface souvent. ces affaires-là arrivent. Le soleil revient souvent. Soit l'immense cathédrale de toutes les permissions. Et sur cette immense cathédrale, trois anges, nus comme des vers, me regardent avec des yeux de feu et claironnent mon wake up. Le matin, je me réveille avec Nina, Simon. Je goûte ses petits déjeuners et la table s'envole de ses propres ailes sur les notes. Les autobus me cruisent, les vitrines me font des clins d'œil, les rues douces de joie, et je saute dans les bras de l'incroyable Unpredictable. Et le soir, je
maintenant, écoutons Christiane Lahaie nous lire un extrait de la nouvelle Chambre 3, Monsieur et Madame C, une nouvelle tirée du recueil Hôtel des Brumes.
J'ai attendu que tu t'endormes pour me lever. J'ai guetté ta poitrine jusqu'à ce qu'elle batte la mesure de cette lente marche vers le sommeil que tu entreprends tous les soirs. Il fallait que je perçoive ton souffle sonore et lancinant, ta respiration de roi. Tu t'enfonces dans la suie ouateuse de tes nuits. Satisfait des gifles que tu distribues à tout ce qui fait mine d'exister en dehors de toi. C'est à cause de cette manie que tu as de tout me reprocher que je préfère cette trêve, cette heure suave où tu déposes les armes, où tu fermes les yeux, quand tu éteins ce regard qui me traque, qui me broie les os et m'écorche. Tu me soupçonnes toujours de reluquer quelqu'un ou de penser à autre chose qu'à ce bonheur que tu me promets et qui ne vient pas. Quoi que je fasse, je suis coupable de haute trahison. Il est 3 heures du matin et les flots s'agitent à peine. On dirait qu'il n'y a que moi, que cette voix étrange qui n'ose plus s'élever d'entre les ronces et dont les ondes trop courtes se heurtent encore et encore aux parois de ta fausse indifférence. Je suis désolée de te l'apprendre au milieu de tout ce silence. Je crois que j'ai commencé à te haïr. À la maison, en ce lieu clos et suffocant que nous avons laissé derrière, tu fais exprès de marcher du talon, fort, surtout quand tu rentres du travail. Tu frappes dans tes mains pour éloigner le chat, pour bien lui montrer qui est le maître, pour ne pas que nous oublions quel vaillant despote tu es. Tous ces bruits, ces rumeurs incessantes tonnent comme des canons à mes oreilles. Tu te dis que tu enjambes des montagnes, que tu provoques les marées, que pour cela il faut bien tout remuer. Tu es le géant qui fait trembler le sol, qui fait fuir les faibles, les pauvres et les démunis. Ceux qui pourraient te défier, tu les évites, parce qu'au fond, tu as peur d'eux. Quand l'orage vient, dans la clameur des coups, dans la symphonie baroque et assourdissante de tes colères d'enfant, je me liquéfie comme une aquarelle et j'attends. Parfois, le paysage prend des teintes de violet, de bleu et de pourpre. D'autres fois, il n'y a rien que le vent qui souffle dans ma tête, qui maquille les marques, qui ensevelit la mémoire. Mes tempes racontent le tic-tac des montres folles. J'avance perdu sur des chemins éradiqués. Tu effaces toute trace de mes pas sous les tiens. Ici maintenant, j'ai pour moi cette plage, ces cailloux durs. Quand je m'y enfonce, que je me confonds avec la grève, je tourne le dos à notre chambre, à ta chambre. De mon refuge, je me sens prête au combat, ma valise tout contre moi. Tout à l'heure, je la confierai aux vagues. Dedans, il y a de quoi tenir toute une vie au fond d'un cratère. De quoi manger, de quoi boire, quelques mouchoirs et du papier. Beaucoup de papier. Je n'en aurai jamais assez cependant pour raconter ce qu'il en coûte d'habiter à côté d'un volcan, à proximité d'un gouffre dont la rage peut jaillir sans avertir ni Dieu ni diable. J'ai appris à vivre avec ta menace permanente. Tu es mon épée de Damoclès, sur la ligne de front, entre la grève et la chambre. Ta chambre. Car je suis seule et je n'ai pas de sœur de sang.
Alors, ça donne le goût de lire la suite de la nouvelle. Merci beaucoup, Christiane Lahaye.
Merci à vous.
Je pense à où je veux aller et à où j'ai déjà été. Le lien commun de ces idées, c'est que nulle part je ne veux rester. Dune de sable et mur de pierre ne retiendront guère la goutte d'eau qui veut tomber pour se jeter dans la mer. Thank you.
vert brûle, père, brûle mon corps. De ton feu, je me sens fort. Terre, mère, protège-moi. Je suis la preuve de votre foi.
Alors, nous sommes de retour avec Christiane Lahaye pour le troisième segment de notre émission. Christiane, si vous deviez identifier les auteurs marquants ou les livres marquants qui ont joué un grand rôle dans votre parcours de lectrice et ou d'écrivaine, quels seraient les noms qui vous viendraient à l'esprit et pourquoi?
Oh mon Dieu, il y en a beaucoup. Moi, je crois à cette grande vérité, à l'effet qu'il faille lire avant d'écrire.
Avant d'écrire. J'aime entendre ça.
Alors, j'ai lu beaucoup, beaucoup avant d'écrire. Je me suis nourrie énormément d'auteurs britanniques, mm-hmm. les sœurs Brontë, entre autres. Pour moi, Jane Eyre, c'est un grand classique, même si c'est un mélange assez intéressant de gothique et de romantique, ce qui est resté, je pense, dans mon travail.
Oui, je pense que oui.
Et bon, bien sûr, mon maître livre, ça va avoir l'air étrange, mais c'est Le Seigneur des Anneaux, que j'ai lu plusieurs fois. Je pense que j'en suis à ma sixième lecture du
Quand
Seigneur
même.
Des Anneaux. Et je le lis, bon, j'ai 54 ans, je l'ai lu à 19 ans la première fois. Donc, chaque fois que je le lis, c'est à une période différente de ma vie et je découvre de nouvelles choses. Je comprends des choses que je ne comprenais pas avant. C'est vraiment un livre pour adultes, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Beaucoup de parents font lire ça à leurs enfants, mais on ne comprend rien si on est trop jeune. Ça va très loin, cette œuvre-là. Et même sur le plan symbolique, il y a beaucoup, beaucoup de... C'est vraiment... Ça va chercher des grands symboles de l'imaginaire occidental et ça les pousse plus loin encore. Alors, pour moi, Le Seigneur des Anneaux, c'est le grand livre, en tout cas. Kamouraska d'Anne Hébert.
Oui, je m'attendais aussi à entendre ce nom-là.
Oui, oui, Kamouraska. Anne Hébert a écrit beaucoup de grands livres, mais mon préféré, c'est de loin Kamouraska. Peut-être à cause de cette histoire d'amour impossible ou d'amour, des amours déchirantes. On dirait que j'aime ça, les histoires d'amour déchirantes. C'est peut-être pour ça que j'en écris aussi. Mais pour moi, Kamouraska, c'est un livre absolument magnifique. Il y a aussi certains poètes. Il y a un poète américain qui s'appelle Robert Frost, que j'ai lu quand même assez jeune, en anglais. Et j'aimais beaucoup ce mélange de simplicité et de profondeur en même temps. Il est très américain en ce sens-là. C'est beaucoup d'images de la nature, beaucoup de métaphores, mais très simples, mais extrêmement parlantes et très profondes. Je pense que celui que je préfère, c'est « The road not taken », c'est-à-dire « Le chemin jamais emprunté ». Et c'est devenu un petit peu c'est une manie presque chez moi de ne pas vouloir faire comme les autres, comme si ce poème-là était devenu un peu ma devise, le chemin jamais emprunté.
C'est intéressant.
C'est toujours,
Merci. Et en contrepartie, parce que comme tous les mois, je suis un peu curieuse et je veux mieux connaître mes invités en tant que lectrice et nos auditeurs aussi. Alors, quelles seraient les œuvres ou les livres qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans la bibliothèque de Christiane Lay?
Oh mon Dieu! Est-ce que j'ai le droit de l'avouer?
En fait, des
livres... j'ai consulté dernièrement un traité de climatologie.
Ah bon?
oui, je suis très curieuse de toutes sortes de choses. Donc, je lis beaucoup aussi sur la joaillerie.
Ah, d'accord.
Je me passionne pour les pierres précieuses, les pierres en général. J'ai un dictionnaire des gemmes et des fossiles. Ah. Et j'ai un livre aussi qui s'appelle Géologica, qui est finalement une histoire de la Terre. C'est-à-dire des différents âges de la Terre et de la formation des strates, comment les montagnes se sont formées,
d'accord,
comment les océans se sont formés. Donc, ça reste souvent autour des lieux, là.
Oui,
j'ai beaucoup de ce genre. Et un des livres que j'adore consulter, que je consulte depuis que je suis adolescente, c'est un dictionnaire des merveilles naturelles du monde.
OK.
Et il y a beaucoup, beaucoup. Et à un moment donné, sûrement que je vais écrire un recueil dont chaque nouvelle va être inspirée d'un de ces lieux que je n'ai jamais visité et que je visiterai jamais. Je pense pas que je vais aller voir Ayers Rock en Australie, même si on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Mais j'aimerais partir de ces lieux que j'ai mythifié avec le temps à force de consulter ce livre.
C'est un beau projet qu'on attend.
Oui, oui. Alors, c'est pas des lectures inavouables comme telles, mais c'est ça. J'aime ça, me renseigner. Je suis très, très curieuse.
Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à notre écrivaine invitée, Christiane Lay. Merci également à Jean-Luc Théberge à la technique. Je vous rappelle que l'émission « Sous l'influence des livres » a été enregistrée à l'Université du Québec à Rimouski. Chères auditrices et chers auditeurs, au plaisir de vous retrouver le mois prochain.
Parking Nomade.